match comme ceci. Bonjour à tous. Et c'est vrai, il y a vraiment personne comme Jésus. Si je nous demande quel jour nous sommes aujourd'hui, vous me direz sans hésiter, nous sommes le dimanche 1er janvier 2023. Alors, je nous souhaite et je vous souhaite à tous une bonne année. Une fois de plus, une nouvelle année s'ouvre à nous. Quoi de plus merveilleux que de commencer l'année par un chant du livre des psaumes, et pas par n'importe quel chant, un chant pour le roi des rois. Si j'avais à donner un titre à ce message, le message de ce matin, je l'aurais intitulé « Le chant pour le roi des rois ». Un truc dingue à comprendre humainement, c'est comment un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu si saint, a fait le choix de venir habiter au milieu des hommes si petits, si minuscules et si tordus, si pécheurs comme nous. C'est quelque chose, comme diraient les jeunes, de ouf, de fou. De dire que le Dieu créateur, le Dieu infini, le Dieu esprit, se met dans la chair physique finie pour devenir l'une de ses propres créations. Il y a une semaine de ça, comme le disait tout à l'heure, nous avons fêté Noël. Un message d'amour pour les hommes. Dieu aime tellement l'homme, il vous aime, vous et moi, au point de nous offrir la chance, ou si vous voulez, vous préférez le seul et unique moyen pour passer l'éternité en sa présence. Il nous a donné son Fils unique, qui est venu prendre sur la croix nos punitions, pour nous libérer de la condamnation, si bien sûr nous acceptons le sacrifice de Christ à la croix pour nous. Pour moi, c'est vraiment le texte de Romains 5, 8, qui résume bien ce sacrifice, cette venue de Christ sur la terre. Écoutez bien, il dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et pourquoi Dieu intervient-il ainsi dans notre histoire ? Un élément de réponse à cette question, nous l'avons dans le livre d'Apocalypse. Et dans le livre d'Apocalypse, nous avons un témoignage, je dirais, à couper le souffle, de l'apôtre Jean qui nous donne une vision de la salle du trône dans le ciel. Et ces témoignages nous donnent une petite idée sur la grandeur de Dieu. Dans Apocalypse 4, du verset 8 à 9, nous lisons cette scène qui se passe devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Écoutez bien, dit dans ce texte, « Jour et nuit, ils, c'est-à-dire les anges et les créatures célestes, chantent sans cesse, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est et celui qui vient. » Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal et celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Quel bien fou cela doit être de vivre une telle présence, une présence éternelle, une présence avec le Seigneur dans l'éternité. Tous nous cherchons, nous courons après le vrai bonheur. Nous souhaitons spécialement le vrai bonheur, le jour de l'an, à des occasions très particulières comme les anniversaires, les mariages et que sais-je. Une question simple qui me vient à l'esprit, c'est comment faire pour jouir du vrai bonheur, de la présence bienfaisante du Seigneur. N'est-ce pas le but ultime de nos vies ? Demeurer dans la présence du Seigneur, l'adorer, le servir pour toujours. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand projet, de plus grand destin pour l'homme que celui-là. D'ailleurs, l'alternative de ça s'appelle l'enfer. Est-ce une préoccupation pour vous de vivre dans la présence de Dieu aujourd'hui et le vouloir y rester pour l'éternité? Je crois que souvent nous nous posons des questions de type comment être dans la présence de Dieu et y rester? Comment vivre dans la sainteté? Comment être des témoins fidèles de Dieu, d'un Dieu si grand? Je crois une réponse courte à cette question est la suivante. Ni nos belles résolutions de début d'année, ni nos efforts, ni nos forces ne peuvent nous faire entrer dans la présence de Dieu. C'est par Christ et lui seul que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles pour lire avec moi un chant dans le livre des psaumes. C'est le psaume 24. Et au travers de cette lecture que nous ferons ensemble, je vous invite à essayer de répondre à la question comment, ou d'essayer de trouver comment faire pour jouir de la présence bienfaisante du Seigneur. Mais avant de lire ce texte, je nous invite encore à prier. Oui, Dieu notre Père, merci pour ce temps particulier que tu nous donnes de lire encore ta parole et de la comprendre. Merci pour les vérités qui sont contenues dans ta parole. Oui, Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. Nous avons besoin vraiment de ta vérité. Donne-nous en ton nom de bien la comprendre, ta parole. Fais-nous la grâce, Père, en ton nom, de voir ta vérité transformer nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou une Bible à côté de vous et de tourner, ou si vous avez votre smartphone, d'aller chercher le texte de psaume 24 que nous allons lire ensemble. Le livre de psaume, ce psaume est un psaume qui est écrit par David. Et le psaume 24, comme dirait l'autre, il est juste après le psaume 23 et il est juste avant le psaume 25. Ce psaume 24, c'est une chanson pour un roi, et pas n'importe quel roi, le roi de gloire, notre Seigneur et notre Sauveur. Le psaume 24 était l'un des nombreux psaumes écrits par le roi David. Certains l'appellent le chant de couronnement, le chant d'intronisation, d'installation ou de réinstallation du roi sur son trône. Il est possible que ce chant ait été chanté à chaque fois que l'arche revenait au temple à sa place. L'arche de l'Alliance signifiait spécialement la présence de Dieu parmi son peuple. Et quand l'arche était de retour à sa place, c'est comme si le roi revenait sur son trône. Vous pouvez presque vous imaginer faire partie de cette caravane de personnes qui se déplacent avec le roi vers son trône. Et je vous invite à rentrer dans cette caravane pour la lecture de ce psaume 24, où nous commençons par le verset 1 et 2. Psaume de David, le Seigneur, qui dit ceci. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tout ce qui est ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Il est question là de la propriété. C'est la notion de propriété, c'est une notion que nous connaissons tous dès notre plus jeune âge. Nous connaissons bien l'expression « Eh oh, c'est à moi ». Nous le disons sous diverses formes, presque pour tout. depuis notre enfance, avec nos jouets, jusqu'à notre voiture, notre maison et que sais-je. Mais vous savez qu'en tant qu'être humain, la notion de propriété est l'une de nos notions, de nos plus grandes illusions. C'est vrai, d'un point de vue humain et juridique, nous possédons certaines choses dans la vie. Mais en y réfléchissant, pouvons-nous réellement revendiquer ces choses comme nôtres et de façon totale et permanente? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire aujourd'hui avec certitude qu'il sera votre dans un siècle, dans 150 ans, dans 200 ans? Dieu, en revanche, oui. Il peut tout revendiquer pour lui, car tout est vraiment à lui. C'est ce que nous lisons dans ce début de ce psaume. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Tout ce qui est dans le monde appartient au Seigneur. Pensez-y. Cela veut dire que chaque océan, chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre appartient à Dieu. Cela veut dire que chaque route, chaque ville, chaque bâtiment, chaque maison ou, en fin de compte, est à Dieu. Cela veut dire que chaque personne, ses amis, ses ennemis sont à Dieu. Il peut en faire ce qu'il veut. Cela veut dire que chaque oiseau est à Dieu. Chaque molécule d'oxygène est à lui. C'est lui qui le donne. Cela veut dire tout simplement que si ce que nous considérons être notre, ce que vous considérez être votre, en fait, en fin de compte, il est à Dieu. Chaque euro, chaque jouet, chaque téléphone portable, chaque être, chaque objet, chaque matière appartient à Dieu. Ce psaume, dans son contexte, vise à montrer la souveraineté de Dieu, le pouvoir et le contrôle absolu de Dieu. Dieu est puissant et il règne sur tout ce qu'il a fait. Et je crois que c'est l'idée principale que nous renvoie ce verset et que j'ai essayé de résumer ici avec cette phrase. Le règne de notre Seigneur englobe le monde entier. C'est ce qui est écrit dans le verset 1 et 2. Le règne de notre Seigneur est sur le monde entier. Le Seigneur possède le monde et ses richesses. La terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a planté sur les mers. Il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. C'est un recadrage essentiel sur notre sens humain de la notion de propriété. Dieu est le créateur de la terre. Nous sommes donc appelés à lui offrir tout ce que nous considérons notre, car nous utilisons ses ressources, les ressources de Dieu pour créer. Nous utilisons ses ressources pour s'approprier des choses. Et cela nous renvoie souvent à la question, sommes-nous vraiment conscients que ce que nous créons, ce que nous avons, sont vraiment à Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu Seigneur et Roi sur toute la terre? Traitons-nous le Seigneur comme notre Roi? Redit autrement, est-ce que Dieu, le Seigneur, habite en nous? Est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous reconnaissons son droit légitime sur nos vies? Sommes-nous vraiment conscients que tout est donné par Dieu? Un exemple qui me parle, moi, personnellement, à chaque fois, c'est son souffle de vie, sa respiration en nous. Ce que nous avons, c'est cette vie-là en nous, c'est Dieu qui nous la donne. Chose extraordinaire, c'est cette respiration, cette vie en nous, Dieu le promet éternellement, nous la promet éternellement. Oui, même après notre mort physique, Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour leurs péchés. Sommes-nous reconnaissants pour ces promesses? Sommes-nous reconnaissants pour ce que notre roi nous donne ici sur cette terre en tant que sujet de sa création? Et prenons-nous soin des dons qu'il nous a confiés. Votre patrimoine, votre temps, votre santé, votre famille, votre vie. Il s'agit vraiment de reconnaître que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes ici bas, sur cette terre, que des gérants et des utilisateurs des ressources qu'il nous a données. Voir ainsi Dieu n'est pas pour nous appauvrir. Bien au contraire, c'est une vision enrichissante, car elle nous rend dépendants et héritiers de Dieu infiniment riche et puissant. J'espère que nous pouvons voir ainsi les choses aujourd'hui. Car lorsque nous voyons Dieu par sa grandeur, généralement cela nous rend petits et humbles dans le bon sens des termes. C'est peut-être pour cela que David nous interpelle au verset 3 avec la question suivante. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Une autre reformulation de cette question de David nous ramène à notre interrogation, à l'interrogation que je vous proposais au départ. Comment faire pour jouir de la présence bienfaisante du Seigneur? Autant le verset 1 et 2 de ce psaume nous parle de la grandeur du Seigneur en tant que Dieu créateur et roi, autant le verset 3 et à 6, David nous parle de notre désespoir sans le Seigneur. Notre grand espoir se trouve dans le roi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons au verset 3 à 6 et que j'ai essayé de résumer avec cette phrase. Le règne de notre Seigneur rend grâce et purifie. Le règne de notre Seigneur englobe le monde entier et il rend grâce et purifie. À l'époque de David, le tabernacle était à Jésus. Le tabernacle était à Jérusalem, pas Jésus. Le tabernacle était à Jérusalem. Et si vous connaissez la géographie de Jérusalem, Jérusalem se situait sur une colline, sur un petit mont, le mont Sion. Donc, pour se rendre au tabernacle et au temple, les gens avaient à monter sur une colline. Et ici, la question « qui peut monter sur la montagne du Seigneur ?» n'est pas une question sur la condition physique à avoir pour gravir la colline ou la montagne. C'est d'ailleurs... La seconde question de David nous permet d'évacuer de ce point de vue et clarifie le point en disant qui va se tenir dans son temple saint. Ce n'est donc pas une question de condition physique. Et redit autrement, David pose la question ici, qui peut réellement se dire saint devant Dieu? Qui peut entrer dans la gloire du Seigneur? J'imagine que tous ici, nous attendons avec impatience le jour où nous serons dans la présence bienfaisante et glorieuse du Seigneur pour toujours. En tout cas, être dans la présence du Seigneur devait être le but ultime de nos vies. Toutes nos activités, carrière, succès, renommée, richesse, héritage familial, beauté physique, je reviens à mon dernier iPhone, etc., sont pâles en comparaison. La réponse à la question de ce verset 3, qui peut monter sur la montagne du Seigneur, qui va se tenir dans son temple saint, nous l'avons dans le verset 4 qui dit ceci. C'est ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui se tournent vers, ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Quelle réponse importante et précise. Être juste devant Dieu, se tenir en sa présence, c'est donc pour ceux qui sont purs, purs dans leur corps et purs dans leur cœur. C'est quelque chose de juste, impossible à l'homme déchu à faire. Humainement, c'est quelque chose d'effrayant. Et le prophète Ésaïe l'a bien compris. Il s'est écrit dans Ésaïe 6, verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe l'a bien capté et il l'exprime en disant « Je suis impur, je ne peux pas me tenir devant Dieu. » Voilà l'état d'un cœur, du cœur que nous devons avoir devant Dieu. Permettez-moi de prendre la situation de COVID-19 que nous avons tous connue pour illustrer ce propos. Avec le COVID, je crois que je ne me suis jamais autant lavé les mains en un mois qu'en une année entière. Et si nous élargissons cette notion de propreté de nos mains lavées plusieurs fois dans la journée à celle de notre corps tout entier, désinfecté des virus et des bactéries, puis-je dire que je peux me tenir devant Dieu? La réponse reste toujours non. Car les mains et le corps désinfecté restent toujours les mains, les corps désinfectés d'un pécheur. Vous avez peut-être déjà utilisé vos mains pour violenter quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être déjà utilisé vos mains pour prendre quelque chose qui ne vous appartient pas ou pour toucher quelque chose que vous n'auriez pas dû toucher. Vous avez peut-être utilisé vos mains pour cliquer sur un lien sur lequel vous n'auriez pas dû cliquer. Vous avez peut-être déjà utilisé vos mains pour toucher ou faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Et si vous n'avez pas utilisé vos mains, vous avez utilisé votre bouche pour dire quelque chose que vous n'auriez pas dû dire. Et quand bien même vous n'avez rien fait, ni avec vos mains, ni avec votre bouche, vous remarquerez que le texte ne nous parle pas que de mains, mais ni de corps. Mais il ajoute un cœur pur. Le cœur fait référence ici à notre être intérieur, au siège de notre affection, de notre croyance et ce qui nous met en mouvement. Le proverbe l'appelle la source de la vie, l'endroit d'où viennent toutes nos motivations, d'où vient tout ce qui découle de nous. Matthieu 5, verset 8 précise « Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur, ils verront Dieu. » Pour tenir dans la présence de Dieu, nous avons donc besoin d'un cœur pur et saint. Et avoir un cœur pur et saint veut dire n'aimer que des choses bonnes et des choses qui pures et qui viennent du Seigneur. Cela signifie que nous sommes appelés à avoir des pensées pures et des motivation pure. Cela signifie que nous sommes appelés à éviter tout ce qui pourrait souiller notre cœur ou le rendre impur. Cela signifie faire de bonnes choses, des choses bonnes et vraies pour des raisons qui sont des raisons divines. En tout cas, cela signifie qu'il faut vraiment se tourner vers le Seigneur. Et si cela n'éliminait pas en nous toute prétention de mérite, David ajoute au verset 4, pour ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Cette dernière couche de David concerne le centre de notre adoration et de notre confiance. Où plaçons-nous notre confiance? Est-ce en nous-mêmes ou dans les créatures de l'homme sans Dieu? Placer notre âme dans le Seigneur. Placer notre âme dans ce qui est faux, c'est mettre notre âme dans de faux dieux, dans des idoles. Vous savez, les idoles se présentent souvent à nous sous des formes diverses et variées. Il ne s'agit pas simplement de petites statues dorées, quelque part planquées, que nous adorons. Les idoles, c'est tout ce que nous aimons, nous servons ou nous adorons de plus que Dieu. Il peut s'agir d'un conjoint, de nos enfants, d'un proche. Il peut prendre la forme d'un emploi, d'une maison, d'un jeu vidéo, d'un parti politique, d'une équipe de sport, de son bien-être, et que sais-je. Chaque fois que nous apprécions quelque chose de plus élevé que le Seigneur, nous élevons notre âme vers l'idolâtrie. Si je résume, pour tenir dans la présence de Dieu, le verset 4, il nous dit qu'il nous faut un cœur pur, des actions pures, un cœur pur, une adoration pure et pas de mensonge ni de tromperie. Quelqu'un peut-il vraiment remplir ces conditions si ce n'est vraiment, si on n'est vraiment pas parfait? Le verset 5 enfonce le clou en ajoutant que si vous êtes capable d'être vraiment parfait, alors vous êtes de ceux qui recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur sauveur, les reconnaîtra comme justes. On peut se demander pourquoi David ajoute ici ce verset 5 après nous avoir dit en gros que personne n'est parfait devant Dieu. Je crois que c'est pour souligner encore une fois qu'il n'y a personne dans le monde déchu, personne dans ce monde sans Dieu capable de tenir devant Dieu. Et ce point est vraiment crucial car il nous montre le besoin d'un sauveur. Exactement comme si un oiseau était un oiseau englué dans du mazout, sans l'intervention d'un sauveur, de quelqu'un d'extérieur à son monde englué, l'issue de l'oiseau sera fatale. C'est la mort. Il y a un moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Et ce moyen, c'est quelqu'un de saint qui nous rende justes aux yeux de Dieu. Et si ce quelqu'un, c'est Jésus. Nous avons vraiment besoin de nous purifier. Et c'est ce que veut dire nous rendre purs devant Dieu. Et cela ne vient que par Jésus. Je ne sais pas si vous captez la nuance. Vous captez le point central de ce texte-là, de ce chant pour le roi des rois. J'aime bien un commentaire biblique qui l'a exprimé assez joliment et qui dit « Non la loi, mais la grâce. » L'un dit « Fais-le » et l'autre dit « C'est fait. » L'un est donné pour que l'on demande l'autre. La loi est donnée pour que l'on demande la grâce. La grâce est donnée pour que l'on remplisse les obligations de la loi. Et c'est ce que nous montre ce verset 5, le don de la purification. Le désir profond de Dieu, c'est de nous donner précisément ce dont nous avons besoin. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur sauveur, les reconnaîtra comme justes. En fait, dans l'Évangile, nous voyons les deux côtés de cette grâce. Il s'agit de deux choses que la mort et la résurrection de Christ a accomplies. Nous purifier de nos péchés et nous rendre parfaitement justes devant Dieu. En d'autres termes, Dieu nous traite comme si nous étions aussi purs et justes que Jésus. Si donc Jésus peut monter sur la colline du Seigneur et se tenir devant lui, alors cela signifie qu'à travers lui, nous pouvons aussi nous tenir dans la sainte présence de Dieu. Voulez-vous être dans sa présence aujourd'hui? Voulez-vous que le Seigneur soit votre sauveur? Alors cherchez. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, cherchez. C'est ce que nous dit le verset 6, qui dit, voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Jacob. Cherchez donc le visage de Dieu, sa présence et sa faveur. Et si vous cherchez Jésus, vous le trouverez. Jésus lui-même le dit dans Luc 11, versets 9 à 10. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Voulez-vous vraiment entrer dans la présence majestueuse de Jésus? Jésus est la réponse. Demandez-lui de vous sauver et il vous donnera son Saint-Esprit. Cherchez donc son visage et il promet, vous le trouverez. Que notre prière de notre cœur ce matin, par-dessus tout, en ce début d'année, soit de chercher son visage et de demeurer dans sa maison pour toujours. Maintenant que David nous a montré comment et qui peut venir dans la présence bienfaisante de Dieu, il conclut en mettant tout l'accent sur le roi lui-même. Et la fin de son chant nous donne un contraste vraiment très intéressant et extraordinaire. Au verset 6, David nous encourage à chercher Dieu. Et le point vraiment extraordinaire est dans le verset 7 que nous allons lire tout à l'heure. Et ce verset 7 nous montre que le texte qui dit l'homme doit chercher le Seigneur, qui nous demande de le chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui demande de le chercher, c'est Dieu qui vient vers nous. Dieu vient vers nous et nous avons juste à l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies. Ce dernier point du psaume 24, je l'ai résumé avec cette phrase, « Le règne de notre Seigneur vient à nous, accueillons-le. » Porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous porte ancienne, laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous, porte ancienne. Laissez entrer le roi de gloire, le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Voyez-vous comment ce psaume continue? Toujours à nous ramener à Jésus, le roi des rois. C'est parce que Jésus est le roi de gloire. Jésus est le lion de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le règne de notre Seigneur doit être accueilli dans sa gloire. Savez-vous ce que j'ai remarqué au fil des temps, chaque année à propos du jour de l'an? Il me semble que, d'une manière générale, nous envisageons la nouvelle année avec optimisme. Nous pensons aux nombreuses façons de faire de nouvelles choses, de rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup d'optimisme. Et souvent, nous prenons des résolutions pour changer ce qui était peut-être mauvais dans l'année précédente. Et très honnêtement, nous sommes prêts, vraiment prêts à changer. Mais la réalité est que souvent, après un petit temps, nous perdons notre motivation initiale. Et à propos des changements que nous voulons, laissez-moi vous dire que si vous êtes un vrai chrétien, vous avez déjà changé par Christ, vous avez été changé par Christ. C'est ce que nous rappelle ce chant de David en disant « Par Christ, nous entrons dans la présence de Dieu ». Et ce changement, nous l'appelons conversion. Mais la conversion n'est pas une fin en soi. Le chrétien est appelé à changer afin de ressembler de plus en plus à Christ. Car Dieu a commencé une bonne œuvre en nous, et cette œuvre bonne qu'il a commencée en nous, il veut la continuer. Il veut continuer ce bon travail en nous. Et ce processus, nous l'appelons souvent la sanctification ou la sanctification progressive, est souvent long. Il est lent. Et quelquefois, il peut être douloureux. Et le chant de ce psaume 24 de ce matin nous invite à compter sur la grâce de Dieu au quotidien, à l'accueillir et à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de sanctification en nous pour la gloire du Seigneur. Pour conclure, notre roi de gloire est toujours sur son trône. Il intercède pour nous auprès du Père. Et nous le verrons un jour, face à face, pour l'éternité. Le chant pour le roi des rois de ce matin nous invite à réinstaller Christ sur le trône de nos vies, si toutefois il n'y est plus. Il nous invite à demander à Christ de prendre en nous la place qui lui est due, si toutefois Christ n'a jamais été dans votre vie. Et si Christ est bien installé, bien présent dans votre vie, ce chant nous invite à être reconnaissants, car c'est par pure grâce. Et ce n'est pas par nos mérites. Et il nous invite à refléter sa lumière. Et au-delà de ce chant, pour le roi des rois, en ce premier dimanche de l'année, je veux nous encourager à rester sur le chemin de la sanctification, en adorant Dieu, en le servant, en servant les autres, et en tant qu'Église, à grandir ensemble et à rayonner sa lumière. Je nous encourage à placer notre confiance en Christ et à le voir à l'œuvre dans les grands changements, mais aussi dans nos petits changements, et à voir ces changements-là comme pour s'encourager, pour le voir au travers de Christ œuvrer en nous au quotidien. J'aime me dire que ce qui compte, c'est la direction, pas la perfection. C'est le mouvement, la croissance, ce n'est pas assez fait, je m'arrête. Le vrai changement, cela se produit dans les détails de nos vies. Et Dieu utilise divers moyens pour nous sanctifier. Alors laissez le Seigneur travailler en vous. Laissons le Seigneur travailler en nous. C'est par lui que nous entrons dans la présence bienfaisante de Dieu. Je nous invite encore à prier. Merci Père pour ce privilège que tu nous accordes de rentrer dans ta présence par ton Fils Jésus-Christ. et d'être tes enfants. Merci d'avoir rendu toutes choses nouvelles pour nous en Christ et par Christ. Et Père, en ce début d'année, nous te prions de nous aider à vivre chaque jour que tu nous donnes, à le vivre pour toi. Donne-nous chaque jour de te chanter un chant nouveau, un chant qui ne dépend pas des circonstances de nos vies, mais qui vient de qui tu es. Peu importe ce qui nous arrive, ce qui peut nous arriver, donne-nous de placer, comme nous l'avons prié déjà, placer notre confiance en toi. Car tu es un Dieu miséricordieux et un Dieu de bonté et un Dieu dont la bonté se renouvelle chaque matin. Oui, Père, aide-nous à te reconnaître en toutes choses, dans les grandes, aussi bien dans les grandes que dans les petites choses. Éclaire les yeux de notre cœur afin que nous puissions te voir vraiment chaque jour, comme tu es vraiment à l'œuvre dans nos vies. Oui, Père, je te prie vraiment de nous remplir du désir de te rechercher plus que toute autre chose. Oui, Père, nous te prions que ton Esprit Saint œuvre en nous, qu'il œuvre puissamment dans ton Église, que ta paix nous conduise, que ta paix conduise ce monde, que ta paix conduise vraiment notre pays. Qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en toi. Oui, Père, que ta grâce couvre chaque instant de nos vies. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous avons vraiment besoin, mais vraiment besoin de toi. Sois le maître de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.